BFM Business, midi, leur H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans leur H, un programme très chargé aujourd'hui. Bien sûr, on va parler des retraites. Laurent Berger est en ce moment même à l'Élysée. Puis on va parler de loi Pacte avec Thibault Langsade. Thibault Langsade qui est déjà en studio avec nous. Bonjour.
Bonjour Edwige Chevrillon.
Merci d'être là. On s'en souvient, vous avez fait, je l'ai même devant les yeux, un rapport sur la participation, l'intéressement, comment il fallait justement booster et changer les mentalités. Vous nous direz si ça a peu changé. En tous les cas, on sait que Bruno Le Maire doit faire son bilan jeudi prochain. Du reste, vous y interviendrez. On parlera aussi de bilan énergétique, de passoire énergétique de la France avec une étude que va nous révéler Bertrand Stalder qui est le patron de seloger.com. Et puis ensuite, c'est Blaise Desportes, il est le président de Max Avelar pour la France. Il participe à ce collectif pour demain en disant, là aussi, il faut accompagner les entreprises dans les 5 ans qui viennent pour qu'il y ait à peu près un quart qui se transforme en termes environnemental, responsabilité sociale. Mais pour l'instant, on passe à l'actualité. Une actualité très chargée avec vous, Julien Rizzo. Bonjour Julien.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Les candidats à la reprise des Glazures avaient jusqu'à midi pour déposer leur offre. La compagnie aérienne a été placée en liquidation judiciaire la semaine dernière. Ce week-end, tous les vols ont été annulés et les avions cloués au sol. On retrouve tout de suite Valentin Demey en direct du tribunal de commerce d'Evry. Bonjour Valentin. De nombreux repreneurs auraient déposé leur proposition de rachat. Est-ce que vous avez vu des repreneurs déposer leur proposition ?
Alors Julien, oui, la date butoir de remise des dossiers vient donc d'expirer. On a vu personne pour le moment, mais plusieurs offres sérieuses de reprise seraient à l'étude selon le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. On parle notamment d'Air France qui serait intéressée pour reprendre la deuxième compagnie aérienne française. Car en fait, Aiglazur dispose d'un atout majeur dans le cadre de sa reprise. Ce sont ses créneaux horaires de décollage et d'atterrissage à l'aéroport d'Orly. Ils sont estimés à 10 000 et Air France en aurait bien besoin pour développer sa compagnie low cost Transavia. Le groupe International Airlines Group, maison mère de la compagnie Vueling et le groupe Dubreuil serait aussi sur les rangs. Et puis, certaines informations faisaient état d'un intérêt prononcé de l'ancien PDG de Hop, Lionel Guérin, qui souhaiterait lui faire une reprise totale du groupe d'Aiglazur, de la compagnie d'Aiglazur, ce qui serait évidemment une très bonne nouvelle pour les salariés, puisque c'est une candidature qui est soutenue par le syndicat des pilotes de ligne. Mais pour le moment, aucune offre de reprise officielle n'a été formulée. L'enjeu d'aujourd'hui n'est donc pas de savoir si Aiglazur sera repris, mais dans quelles conditions. Et aujourd'hui, on vient de croiser la présidente du tribunal et les dossiers vont être examinés donc dans l'après-midi. Et la prochaine audience est attendue lundi prochain, ici même, au tribunal de commerce d'Evry.
Merci Valentin Demey, en direct du tribunal de commerce d'Evry avec Alexandra Paget. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a évoqué une offre de reprise principale sans toutefois révéler l'identité de ce repreneur potentiel. Jean-Baptiste Huet, bonjour. Rachat d'Aiglazur semble attirer de nombreux repreneurs.
Peut-être les repreneurs effectivement sont passés par une porte dérobée pour accéder au tribunal d'Evry. En tout cas, effectivement, il y a du monde au chevet d'Aiglazur. Air France, vous l'avez dit, Lionel Guérin, l'ancien patron de Hop, le groupe Dubreuil qui possède Air Caraïbes. On a IAG aussi qui possède Vueling. On parle de Chronopost, d'EasyJet et aussi d'Air Algérie. Très clairement, on en parle, Aiglazur et ses 10 000 créneaux horaires de décollage et d'atterrissage à Orly font briser les yeux. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu autant de créneaux horaires disponibles sur le marché. Impossible à rater pour les compagnies. Ce matin, Jean-Baptiste Djebbari, le nouveau secrétaire d'État en charge des transports sur BFM TV et RMC, a esquissé ce que pourrait être le projet de reprise. Peut-être un projet de reprise porté par Lionel Guérin, ce qui permettrait selon lui de poursuivre l'activité d'Aiglazur pour ensuite la développer avec la participation des actionnaires, donc actionnariat salarié, ou bien, autre dossier, Air France, qui consisterait sans doute à absorber la totalité d'Aiglazur. Il pourrait aussi s'agir d'un mix entre ces deux offres. Peut-être Air France aurait une participation minoritaire. Et puis Lionel Guérin serait aux manettes. On va voir ce que décide dans les jours qui viennent le tribunal de commerce.
Oui, mais il y a quand même aussi Air Algérie qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a 15 millions d'euros de trésorerie qui sont restés. Qui sont toujours bloqués en Algérie. Donc là, évidemment, à mon avis, il y aura des négociations sur les slots.
Merci Jean-Baptiste. Air France KLM qui perd 8% en bourse avec ce possible intérêt du groupe pour la compagnie Aiglazur. La compagnie a transporté 9,8 millions de passagers au mois d'août. C'est 2,3% de plus qu'il y a un an. De son côté, l'activité cargo affectée par la guerre commerciale continue de reculer avec une baisse de près de 6%. De son côté, British Airways annule la quasi-totalité de ses vols au Royaume-Uni. La compagnie aérienne est confrontée à une grève des pilotes, la première de leur histoire. Les pilotes réclament une augmentation de leur salaire. Cette grève risque d'affecter plus de 100 000 voyageurs au Royaume-Uni. Le directeur général de Nissan, Hiroto Saikawa, devrait démissionner. Il devrait officialiser sa décision lors du conseil d'administration réuni en ce moment. Il a confié à plusieurs journalistes japonais vouloir passer la main à une nouvelle génération. Il y a quelques jours, Hiroto Saikawa avait admis avoir été trop payé, estimant être victime d'un système mis en place par Carlos Ghosn. Parallèlement, les bénéfices du constructeur ont dégringolé au premier trimestre de cette année. La Banque de France confirme sa prévision de croissance de 0,3% du PIB au troisième trimestre. Concernant le climat des affaires, l'indicateur est en hausse dans l'industrie, tablant à 99 en août par rapport à 96 en juillet. Les indicateurs du climat des affaires dans les services comme dans le bâtiment restent stables au mois d'août. À noter que les chefs d'entreprise interrogés par l'enquête de la Banque de France s'attendent à un ralentissement de l'activité dans l'industrie et dans les services en septembre. Un premier bon chiffre pour l'économie allemande, les exportations ont augmenté de 0,7% en juillet, un signe que la première économie européenne pourrait résister mieux que prévu aux tensions commerciales et à l'incertitude autour du Brexit. Les importations, elles, ont diminué de 1,5%. L'excédent commercial allemand s'établit à plus de 20 milliards d'euros contre 18 milliards en juin.
Et on s'arrête là, Julien, merci.
Peut-être et juste le CAC 40 à la mi-journée, il est à l'équilibre à 5605 points. Et puis l'euro-dollar stable également, avec 1 euro s'échange 1,10 $.
Merci beaucoup, Julien. Évidemment, on vous retrouve avec cette actualité chargée à 12h30. Tout de suite, c'est Thibault Langsade.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Question du jour, Thibault Langsade, c'est de savoir si renégociation, re-renégociation, concertation, on repart de zéro, on s'inspire du rapport autour de la réforme des retraites. On sait qu'en ce moment même, Laurent Berger de la CFDT est donc chez Emmanuel Macron avec cette question d'âge pivot ou pas. Vous êtes sur quelle position, vous patronat et position différente. Hein.
Position un peu différente. Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que le gouvernement marche sur des œufs. Et donc, maintenant, tout le travail qui a été fait de concertation par Jean-Paul Deloye, maintenant, doit s'exprimer et visiblement le gouvernement souhaite prendre le temps de la mesure. Néanmoins, ce qui a été proposé, en tout cas par le président de la République, qui est de s'orienter sur une durée de la cotisation est quelque chose qui n'est pas inintéressant. À condition aussi que les personnes qui ont travaillé plus tard, notamment je pense aux cadres, mais qui cotisent beaucoup plus, on puisse tenir compte d'une péréquation. Donc j'ai envie de dire que le régime par points est quelque chose qui fonctionne et qu'il doit fonctionner. Je pense que l'enjeu, c'est la réconciliation nationale autour de cette problématique des retraites. C'est-à-dire que je pense que une grande majorité des Français ont compris qu'il va falloir travailler probablement un peu plus, mais que ce soit équitable, équitable pour tous. C'est ça le
point. Mais pour vous, c'est l'âge pivot, c'est indispensable ou pas?
Je pense qu'il va falloir que le gouvernement clarifie sa position, parce que
il y a des positions assez différentes, justement.
Il y a un moment où, quand vous regardez les autres pays européens, notamment l'Allemagne, qui va définir son âge de retraite d'ici 2029 à 69 ans, il va falloir que la France définisse clairement sa position. Et là, il y a un flou qui, incontestablement, empêche de pouvoir donner une transparence très forte sur le régime, la réforme des régimes de retraite.
Oui. Visiblement, on sent que Geoffroy Roux-de-Bézieux a un peu, allégé sa position en disant on peut peut-être faire comme dans l'Agirc-Arrco, la réforme de l'Agirc-Arrco, qui, elle, marche. C'est-à-dire qu'on aurait une sorte de période de 3 ans où on aurait une baisse de ses retraites.
Oui, il y a quelque chose qui a fonctionné avec les partenaires sociaux, ouais. Puisque l'âge pivot a été mis à 64 ans. Alors, néanmoins, c'est la CFDT qui a signé, FO et CGT n'ont pas adhéré à ce point-là, mais probablement, il va falloir clarifier la position. Est-ce que le système incitatif qui vous permet finalement de travailler plus et d'être mieux incité financièrement est quelque chose qui fonctionne? Oui, probablement. Après, je pense que une fois de plus, l'âge est important pour envoyer un message clair. Le point de vigilance que je vois, c'est notamment la discussion avec les syndicats, qui veulent remettre finalement la pénibilité dans la négociation des retraites. Et là, on recrée un système préférentiel, on recrée, on va dire, des régimes spéciaux, ce qui était extrêmement dangereux. Et en plus, philosophiquement...
Oui, la pénibilité et les carrières longues, on voit bien. Et à mon avis, après les gilets jaunes, on voit bien, c'est pour ça que le président a ouvert cette fenêtre sur la durée de cotisation plus que sur l'âge pivot.
Oui, mais les syndicats font une erreur, c'est que la pénibilité, elle doit être traitée tout au long de la carrière et faire en sorte que les personnels qui sont exposés à des métiers pénibles, notamment dans le bâtiment, travaux publics, puissent être réorientés au milieu de leur carrière. Et considérer que la pénibilité intervient finalement sur l'âge de départ en retraite est une erreur.
Ouais. Là, vous parlez de réconciliation nationale. Est-ce que finalement, c'est sûr que cette réforme des retraites, elle veut dire, elle va bien plus loin qu'une réforme financière pour que les comptes soient à l'équilibre en 2025. Je veux dire, ça touche l'ensemble. C'est structurant pour la société française, cette réforme.
Oui, et je crois que tout le monde a compris que les militaires, les pompiers, les policiers doivent bénéficier d'un régime spécifique compte tenu de l'exposition, pour le coup, au risque, et que la nation doit être reconnaissante pour cela. Mais après, c'est l'harmonisation du système de retraite. Quand vous avez un fonctionnaire de police qui n'exerce pas au feu, ou en tout cas dans ses missions, il n'y a aucune raison qu'il ait un système différencié par rapport à d'autres fonctionnaires. Quand vous avez des militaires qui ne sont pas sur des bâtiments, qui ne volent pas, il n'y a pas de raison, parce qu'ils sont employés dans des problématiques de maintenance, il n'y a pas de raison qu'ils bénéficient de régimes particuliers. Et je pense que beaucoup de Français, notamment au travers des régimes des fonctionnaires, ont besoin de cette harmonisation.
Oui. On en a besoin, c'est une harmonisation ou simplification, en fait. Simplification, parce qu'on y retrouve plus personne s'y retrouve, en fait.
C'est une question d'équité.
Mais c'est très long.
C'est une question d'équité plus que de simplification. Au moment où vous avez une fracture dans la population, où tout le monde se regarde, le président de la République a parlé de cette réconciliation, où vous avez des différences dans les différents régimes de protection, il y a un moment où il faut de la lisibilité, vous avez raison, ça participe à la simplification, oui. Mais c'est de tendre sur de l'équité.
On dit un mot parce que donc jeudi, Bruno Le Maire va faire le bilan de sa fameuse loi PAC qui s'est voulue transformatrice, en l'occurrence pour les entreprises, l'économie, je ne sais pas si c'est atteint, mais vous aviez le volet intéressement participation, vous aviez donc publié ce rapport, vous étiez venu nous en parler avec François Perret sur partager plus pour se développer mieux, essayer de convaincre. Vous avez réussi un peu à convaincre quand même, ou alors il y a des résistances, parce qu'on voit bien que les résistances, elles sont très très fortes un peu partout. Hein.
Alors d'abord, le premier point, c'est que pendant 9 mois, tout ça a été un peu occulté par la crise des Gilets jaunes. Et donc, toute la communication qui aurait pu être faite sur la loi Pacte de simplification a été très clairement brouillée. Et je pense que jeudi, Bruno Le Maire veut relancer une campagne de sensibilisation, d'information auprès
des... D'accord, donc vous êtes déjà en train de nous annoncer que finalement, il n'y a eu aucun effet, quoi.
Alors, il n'y a pas eu d'effet concret sur l'intéressement et la participation, hormis le fait, qui est un point extrêmement important, que nous avons sensibilisé des branches professionnelles pour négocier au plus vite syndicats, patronats, sur la mise en place d'accords d'intéressement type pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Juste, redites-moi, parce que ça, c'est vraiment l'Arlésienne. Il y a combien de... Vous me tendez une perche, je la saisis. Hein. Il y a combien de branches professionnelles ont été parsées? Il y en avait des centaines aujourd'hui.
Il y a 450 branches, c'est-à-dire autant que de fromage. Ouais. Néanmoins, la volonté du gouvernement est de réduire ces branches.
Était il y a 2 ans. Donc, 3 ans.
C'est horriblement compliqué, mais je peux vous donner quelques exemples. Ouais. Quand vous avez la profession bancaire, qui a un quinzaine de branches professionnelles, comment vous harmonisez? Comment vous trouvez une synthèse? Donc c'est un travail qui est
très
long.
Donc ça n'a pas bougé.
Ça n'a pas bougé sur la réduction des branches. Le gouvernement entreprend, on va dire, des initiatives pour faire en sorte qu'on puisse avoir 80 branches professionnelles qui soient fortes.
Alors, mais ça devait déjà être le cas.
Mais c'est comme vous l'avez dit très justement, c'est une Arlésienne. Il y a un moment où il va falloir probablement que le gouvernement soit plus coercitif.
Oui, il faudra qu'il y ait... Ça montre bien quand même que les partenaires sociaux, entre guillemets, vous dénoncez souvent, vous, le patronat, le rôle des syndicats, le fromage des syndicats, etc. Mais ça veut dire, du côté du MEDEF, c'est un peu la même chose,
Il ne faut pas oublier que le MEDEF est une fille dont les maisons-mères sont les branches professionnelles. Ouais. Notre capacité d'influence auprès des maisons-mères est somme toute assez faible. Après, oui, il est vrai que nous sommes dans un syndrome qui est que chacun dans sa niche a du mal à se simplifier.
L'état profond, c'est ce qu'avait dit très intéressant cette réflexion du président de la République à propos du fait que les choses ne bougeaient pas dans l'État. Et là, c'est les syndicats profonds, le syndicalisme profond, aussi bien du côté syndical que salarial que du côté patronal. Donc, bref, vous relancez une campagne, on repart de zéro, quoi.
Alors, on repart de zéro, c'est-à-dire que nous, le travail qui a été fait, le premier point, c'est d'inciter les chefs d'entreprise, parce que maintenant c'est plus facile, parce qu'on peut signer des accords d'intéressement de façon plus simple, parce que c'est incitatif fiscalement, puisqu'ils ne payent plus le forfait social sur la mise en place de la participation et de l'intéressement. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est d'inciter les branches professionnelles à négocier au plus vite pour qu'elles puissent faire la promotion de ces dispositifs. Quand vous êtes dans une entreprise du bâtiment, signer un accord d'intéressement, ce n'est pas le même que celui dans une entreprise de service, dans une entreprise automobile. Donc, plus les branches mettent des référentiels, ça peut s'appliquer après de façon unilatérale. Donc, c'est très simple à mettre en place. Et puis, le troisième point, qui est finalement les mesures que nous avons données au gouvernement, c'est de continuer à simplifier ce volet-là. Aujourd'hui, quand vous êtes chef d'entreprise et que vous décidez de mettre en place un plan épargne, et vous ne pouvez pas abonder de façon unilatérale. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes obligé de respecter un accord. Si un chef d'entreprise veut rétribuer ses collaborateurs, il doit pouvoir le faire directement, sachant qu'un plan épargne finance l'économie, mais ensuite est avantageux pour le salarié. Donc on a une série de mesures. Trois mesures de ce rapport ont été déjà reprises par le Premier ministre. Il faut aller plus loin dans la simplification. Il faut convaincre les directs, il faut convaincre les URSSAF aussi de mieux accompagner avant de contrôler les chaînes d'entreprise. Donc c'est cette méfiance, défiance du chef d'entreprise à l'égard de l'administration. Là aussi, il faut faire en sorte que l'administration puisse aider avant de contrôler.
Est-ce que quelque part le gouvernement n'a pas raison dans cette méthode un peu brutale sur l'assurance chômage, par exemple? On va peut-être voir ce qui va se passer sur les retraites, c'est-à-dire finalement en disant vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, donc pour faire avancer le schmilblick, il faut que nous, on prenne les rênes.
Il faut qu'on décide. On voit bien que quand
l'assurance chômage, retraite, réforme du travail,
l'État reprend la main. Donc il y a probablement une responsabilité de l'État sur, on va dire, la stratégie systémique, parce que le patronat et le syndicat n'arrivent pas à se mettre d'accord. Enfin, sur la réforme de l'assurance chômage,
typique.
Est-ce qu'il va falloir que lors des PLF et PLFSS, ce soit l'État qui détermine le montant des indemnisations, la durée des cotisations? C'est extrêmement dangereux.
Parce
que ça peut nous mettre dans une position différente. Donc, il faut que l'État impulse, probablement l'État, on va dire, enclenche. Néanmoins, je pense que sur la gestion paritaire, qui est de laisser cette co-responsabilité, c'est aux organisations patronales et syndicales de le garder.
Regardez, il y a un secteur que vous connaissez bien, parce que vous présidez maintenant Jouve, en l'occurrence, qui travaille beaucoup sur la transformation numérique des entreprises. La transformation numérique des entreprises, il y a plein de chefs d'entreprise qui vous disent, c'est pas une urgence pour moi. Alors, il y a les start-upers, les machins, etc., tout ça, c'est formidable. Mais il y a plein de chefs d'entreprise, de PME que vous connaissez très bien, qui sont là, c'est pas urgent.
Mais est-ce que c'est de la responsabilité de l'État? Je pense que là, c'est responsabilité du chef d'entreprise. Maintenant, tout passe par, finalement, une sensibilisation du chef d'entreprise. Et il est clair que s'il n'est pas sensibilisé, il va être rattrapé par la patrouille. C'est-à-dire qu'il va se retrouver très vite dans une situation complexe de digitalisation. Alors, c'est le vrai sujet des PME. De toute manière, traditionnellement, en France, on est toujours en retard. Parce que quand vous regardez le bug de l'an 2000, quand vous regardez le passage au CEPA, vous savez, quand vous envoyez un virement dans un pays étranger, vous pouvez passer par cette chambre de compensation. Le CEPA vous permet d'aller directement dans le pays. Eh bien, la France arrive toujours en retard par rapport aux autres pays européens. Donc oui, il y a un vrai sujet de transition numérique, de transition digitale des PME.
Merci beaucoup Thibault Langzat d'avoir été avec nous, donc le patron de Jouve. Cette question intéressement participation qui va revenir un peu sur la table, sans doute après l'année prochaine, en fait. On peut dire ça comme ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, la transformation énergétique de passoire énergétique avec le président du directoire de Seloger.com, Bertrand Stalder. Il publie une enquête dont il nous révèle l'exclusivité dans un instant. A tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Bertrand Stalder, le président du directoire de Seloger.com. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va parler évidemment des prix de l'immobilier qui explosent et puis surtout de ce premier baromètre des villes et des régions que vous publiez aujourd'hui, que vous nous révélez ici sur BFM Business, sur les passoires énergétiques, les factures énergétiques. Où est-ce qu'on consomme le plus? Où est-ce que c'est le mieux? Ville, région. Il y a même aussi un peu, après, vous ventilez. C'est assez intéressant de voir que... Enfin, intéressant et en même temps une question, puisqu'il y a trois villes qui sortent du lot, de votre baromètre. Vous êtes d'accord?
Alors, dans celles qui consomment le moins, on a effectivement les trois premières qui sont Toulon, Toulouse et Montpellier. Puis vous avez également celles qui consomment le plus.
Bah oui, mais j'ai envie de dire, quand vous êtes à Lille, vous consommez plus d'énergie que quand vous êtes à Toulon ou à Montpellier. C'est pour ça que je m'interrogeais un petit peu.
On voit effectivement, de toute façon, la moyenne nationale de consommation est aux alentours des 250 kilowattheures par heure par an. On voit une grande disparité et plutôt une consommation plus faible dans le sud par rapport au nord. Effectivement, le climat joue, mais aussi les conditions de logement.
Donc, c'est le premier baromètre que vous faites sur le diagnostic, en fait.
Voilà, on, On parle beaucoup de DPE, on parle beaucoup de la loi climat-énergie, des passoires énergétiques. On a voulu donner un petit peu un éclairage sur l'état du marché et pas simplement parler de sigles, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les gens au quotidien. Ça change un peu des prix immobiliers.
Absolument. Mais surtout, c'est qu'on se rend compte quand même que le parc immobilier français, bah, il est quand même, en grosso modo, une bonne passoire hein, énergétique.
Le DPE va de A.
DPE, donc on va dire le diagnostic
voilà, pour l'énergie. Pour l'énergie, va de mesure deux éléments, notamment la consommation énergétique, ouais. Qui est une échelle qui va de A à G.
Ouais.
Voilà. Et finalement, la moyenne nationale est à E. Donc c'est pas terrible, mais surtout on appelle les passoires énergétiques, c'est-à-dire à peu près 7,2 millions de logements en France qui sont classés F ou G. Et il y a une volonté, effectivement, au travers de la loi climat-énergie, de lutter contre ces passoires énergétiques et favoriser, finalement, les travaux d'amélioration.
Et alors, chose, je ne sais pas si vous l'avez fait, en tous les cas, je n'ai pas vu dans votre étude là, que j'ai là, mais moi, je voudrais savoir le parc immobilier public. Parce que moi, j'aimerais bien voir ce qui se passe dans les écoles, les commissariats, tous les ministères, etc. Je suis sûre que là, ce sont des passoires énergétiques comme peu dans le privé.
Alors, d'une manière générale, l'immobilier concourt à peu près au quart des émissions de CO2. Donc, c'est une problématique généralisée. Notre étude a porté exclusivement sur les biens qui étaient à louer ou à vendre sur nos sites. Donc, plutôt du parc privé.
Oui.
Mais la problématique est certainement la même sur le parc social ou le parc public en général.
Donc on la détaille, c'est toujours intéressant. Donc on a vu les trois villes qui sont les plus performantes.
Exactement.
Même si c'est pas, après les moins performantes, c'est Lille, Reims et Paris.
Comment
vous expliquez ça? Donc Paris pas du tout bien placé.
D'abord on peut voir que sur Paris vous avez beaucoup de logements anciens. Si vous regardez le cœur de Paris, les immeubles haussmanniens etc. sont des immeubles qui peuvent être anciens, sur lesquels vous n'avez pas forcément des nouvelles constructions, des fenêtres ou des toitures qui ont été refaites. Vous avez aussi beaucoup de petites surfaces. Or, les petites surfaces sont souvent équipées également de convecteurs électriques, pas toujours les plus modernes, etc. Voilà, je pense que c'est l'ancienneté de la ville aussi joue dans sa consommation énergétique au-delà du climat.
Oui, parce que lorsqu'on regarde quartier par quartier, on voit qu'un des quartiers les plus performants, entre guillemets, à Paris, c'est le 13e arrondissement. C'est normal, c'est beaucoup de nouveaux immeubles.
C'est le plus moderne, on va dire, en tout cas, par rapport aux arrondissements du centre ou bien du nord, également.
Et maintenant, donc, en fait, avec la loi climat-énergie, on sera obligé on doit déjà produire quelque chose, donc le fameux DPE.
Oui.
Mais là, il y aura des pénalités, en l'occurrence, pour les logements vendus qui sont les moins performants. Comment est-ce que vous allez l'indiquer, vous, notamment sur seloger.com?
Alors, certains vont dire qu'on ne va pas assez vite dans la contrainte au changement, puisque, je dirais, la véritable contrainte sera aux alentours de 2028. D'ici là, on favorise plutôt l'incitation au changement, à la rénovation, notamment par des incitations fiscales. Mais dès 2021, il y aura une obligation pour les propriétaires et pour les agences de communiquer au sein des agences, non seulement les DPE, ce qui est déjà une obligation, mais également la consommation, les factures de consommation des biens immobiliers pour donner une vraie image de ce que le bien peut consommer.
En même temps, on change de nouveau les règles sur le crédit d'impôt transition énergétique. En l'occurrence, on n'arrête pas de changer les règles. Ce qui fait qu'on ne sait plus très bien si on a le droit à des déductions ou pas. Est-ce que ça, vous le regrettez? Enfin, c'est un peu dommage.
Il y a toujours des accompagnements, notamment sur le changement des chaudières, le changement des toitures, le changement des fenêtres, etc. Et donc, il y a des aides. Elles sont très nombreuses. Parfois, il est difficile de s'y retrouver. C'est pour ça que sur notre site, on essaye de donner des informations pour guider les personnes dans ce domaine-là. Mais effectivement, il existe encore beaucoup d'aides. Et effectivement aussi, beaucoup de changements pour les propriétaires. On leur demande de rénover leur logement. Et puis, en même temps, on les contraint, par exemple, sur l'encadrement des loyers, etc. Donc tout ça crée beaucoup de bruit.
Oui, bien fait de bruit, c'est contradictoire surtout, non?
Ben c'est-à-dire que d'un côté...
On vous dit qu'il faut rénover votre appartement, puis en même temps vous avez des loyers
exactement.
Qui sont encadrés.
C'est la contrainte qui peut se poser à un moment donné et le propriétaire locataire peut, dans ce cas-là, décider soit de ne plus louer son appartement ou d'attendre finalement pour la rénovation énergétique.
Cela dit, lorsqu'on regarde les prix immobiliers sur votre site, mais les prix immobiliers sont, on se demande si ça va monter jusqu'au, si les arbres montent jusqu'au ciel. On a peut-être enfin la démonstration avec les prix immobiliers, notamment parisien, mais pas seulement.
Oui, parce qu'on parle beaucoup de Paris. Les prix immobiliers en France, la moyenne, c'est à peu près 3 420 € par mois, par mètre carré pour un bien immobilier. Donc des disparités.
Et ça progresse, il faut le dire, parce que souvent on dit que ce n'est pas le cas dans les villes de province.
Ça, progresse un peu. D'à peu près 4,1% depuis un an, avec des disparités très fortes entre villes. Je vais vous juste pour prendre un exemple. Lille, plus 0,9%. Bordeaux, plus 1,1%, mais après de très fortes croissances avec l'arrivée notamment du TGV. Et à l'inverse, vous avez Rennes, par exemple, qui progresse de 10% cette année, là aussi avec un effet TGV. Donc on voit une grande disparité, mais effectivement Paris sort du lot avec un prix moyen au mètre carré de 10 450 mètres carrés. Plus de 12 arrondissements sont au-dessus des 10 000 euros au sein de Paris, et ce qui entraîne aussi des augmentations assez fortes en petite et moyenne couronne.
Oui, c'est du jamais vu, mais vous étiez venu aussi l'expliquer ici, on n'a jamais vu de tel niveau de prix.
Sur les 4 dernières années, Paris a augmenté à peu près de 25%. Donc c'est une augmentation extrêmement forte et continue. Certains se posent la question de savoir si Paris va continuer à augmenter ou si ça ne va pas s'effondrer. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des baisses de prix sur Paris.
Certains candidats à la mairie de Paris disent bah, limite, il faut supprimer Paris. C'est-à-dire que Paris, maintenant, c'est le Grand Paris. Il n'y a plus de Paris intramuros. Ça changerait quelque chose, à votre avis?
Alors, on pourrait regarder le prix au mètre carré, effectivement, sur le Grand Paris. Ça le baisserait. Mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est globalement, vous avez une croissance très forte dans l'agglomération parisienne.
Oui.
Les villes comme Montreuil, Champigny, Colombes, par exemple, sont des villes qui ont une croissance
exponentielle,
des prix qui est équivalente à celle de Paris. Bien sûr, sur des niveaux beaucoup plus faibles. Mais vous allez avoir cette attirance, je dirais, de la région parisienne qui va faire que augmenter. Il y a une attractivité d'abord internationale de la ville, et puis un manque de logement sur la cité, donc qui mécaniquement crée de l'attractivité.
Bertrand Salder, seloger.com aujourd'hui, c'est combien d'agences, c'est combien d'annonces et d'agences, parce que c'est beaucoup d'agences hein, qui publient par jour?
C'est à peu près en permanence 1 200 000 annonces disponibles sur le site, soit en vente, soit en location. Et c'est l'essentiel des agences immobilières en France qui communiquent leurs biens.
Et combien de biens vendus sur le site, sur votre site, vous savez?
Alors, sur la vente, vous avez à peu près 900 000, 1 million annonces et à peu près 200 000 en permanence sur la location. Beaucoup plus de biens en vente. La location tourne beaucoup plus vite.
Merci beaucoup. Seloger.com, Bertrand Salder était notre invité. Et dans un instant, c'est Blaise Desbordes qui est le patron de Max Avelard pour la France. A tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Décidément, on parle de transformation dans cette orage. On va parler du collectif pour demain avec Blaise Desbordes, qui est le patron de Max Avelard pour la France. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Il y avait l'université d'été du MEDEF, on en a parlé tout à l'heure, mais il y avait aussi l'université d'été de l'économie de demain, à laquelle vous participiez. On parle de ça dans un instant, mais pour l'instant, retour à l'actualité avec Julien Rizzo.
Les candidats à la reprise d'Aiglazur avaient jusqu'à midi pour déposer leur offre. La compagnie aérienne a été placée en liquidation judiciaire la semaine dernière. Ce week-end, tous les vols ont été annulés et les avions cloués au sol. On retrouve tout de suite Valentin Demey en direct du tribunal de commerce d'Evry. Bonjour Valentin, de nombreux repreneurs auraient déposé leur proposition de rachat.
Eh oui Julien, la date butoir de remise des dossiers a donc expiré à midi pile et plusieurs offres sérieuses de reprise seraient à l'étude selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire. On parle notamment d'Air France qui serait intéressée pour reprendre la deuxième compagnie aérienne française, car en fait Aiglazur dispose d'un atout majeur dans le cadre de sa reprise, ce sont ses créneaux de décollage et d'atterrissage à l'aéroport d'Orly. Ils sont estimés à 10 000 par an et Air France en aurait bien besoin pour développer sa filière low cost Transavia. La groupe international Airlines Group, maison mère de la compagnie compagnie Vueling, ainsi que le groupe de Breuil serait aussi sur les rangs. Et puis certaines informations les faisaient état d'un intérêt prononcé de l'ancien PDG de Hop, Lionel Guérin, qui souhaiterait faire lui une reprise totale d'Aiglazur, une candidature qui est évidemment soutenue par le syndicat des pilotes de ligne, syndicat majoritaire dans la compagnie Aiglazur. Mais pour le moment, aucune offre de reprise officielle n'a été formulée. L'enjeu d'aujourd'hui n'est donc pas de savoir si Aiglazur sera repris, mais plutôt à quelles conditions. Est-ce que ce sera une reprise totale ou une reprise partielle? Nous venons de croiser la présidente du tribunal. Les dossiers vont être examinés aujourd'hui et une prochaine audience est prévue lundi prochain, ici même, au tribunal de commerce d'Evry.
Merci Valentin. Valentin Demey en direct du tribunal de commerce d'Evry avec Alexandra Paget. Air France KLM perd 8% en bourse avec ce possible intérêt pour la compagnie Aiglazur. La compagnie a transporté 9,8 millions de passagers au mois d'août. C'est 2,3% de plus qu'il y a un an. De son côté, l'activité cargo affectée par la guerre commerciale continue, elle, de reculer avec une baisse de près de 6%. Le directeur général de Nissan, Hiroto Saikawa, devrait démissionner. Il devrait officialiser sa décision lors du conseil d'administration réuni en ce moment. Il y a quelques jours, Hiroto Saikawa avait admis avoir été trop payé, estimant être victime d'un système mis en place par Carlos Ghosn. Le CAC 40, à la mi-journée, il est à l'équilibre à 5603 points. Et puis pour l'euro-dollar, stable également, 1 euro s'échange, 1,10 $.
Merci Julien. Dans un instant, c'est le patron de Max Havelaar pour la France, Blaise Desbordes, qui est notre invité. On parlera de l'économie pour demain et de ses transformations nécessaires. A tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Blaise Desbordes. Il est le patron de Max Havelaar pour la France. Encore une fois, merci d'être avec nous. Mais c'est aussi, si vous êtes là, c'est que vous êtes le porte-parole de ce collectif. Nous sommes demain. Et en fait, les entreprises dont le modèle repose justement sur la transformation environnementale et sociale des entreprises. Et puis, c'est tenu ce week-end. Il y avait toutes les universités d'été politiques, mais il y avait la vôtre, en l'occurrence, celle de l'économie de demain. Juste un petit mot rapide. On y reviendra plus longuement ensuite. Mais Max Havelaar, ça représente quoi aujourd'hui?
Max Havelaar, c'est la première ONG de consommation responsable au monde. C'est un petit signe que les consommateurs connaissent, qui a un très fort taux de notoriété et qui permet d'identifier dans le rayon du magasin si un produit a une certaine responsabilité, notamment en termes de revenus des producteurs, beaucoup dans l'agriculture, demain peut-être dans le textile, mais permettre aux consommateurs de reconnaître si le produit est responsable.
J'aurais pas mal de questions là-dessus, parce que c'est aussi comment on vérifie tout ça. Ça suscite beaucoup de choses. Alors, ce collectif, qu'est-ce que vous voulez porter? Et j'ai envie de dire, et dans les actes, parce que là, on a beaucoup entendu, tout le monde parle beaucoup de la transformation, même si vous êtes un des pionniers. Mais là, on a envie un peu de concret, vous voyez? Comment ça peut se passer?
Je dirais que l'idée fondatrice, c'est de dire que toutes les entreprises n'ont pas le même impact sur la société. Et il y a de très nombreuses, des milliers d'entreprises, d'organisations en France qui font de l'économie, qui font de l'entrepreneuriat au quotidien et qui mesurent avec précaution, sagesse et beaucoup d'attention l'impact qu'elles ont sur l'environnement, sur la société, sur l'insertion sociale. Et cette famille-là, on a voulu la rassembler, encore une fois, parce qu'elle pèse déjà 10 à 12% du PIB français, donc c'est pas rien, et souvent les Français, les consommateurs ne le savent pas. Et d'autre part, parce qu'on ambitionne d'atteindre peut-être demain 20, 25%. Pourquoi on dit l'économie de demain? C'est pas de l'orgueil, c'est parce qu'on pense qu'on n'a pas vraiment le choix. On sait aujourd'hui, dans les bilans environnementaux, dans les constats du GIEC, dans les constats sur la biodiversité, que notre économie n'est pas tenable. Mais la question, c'est a-t-on un plan B? Peut-on continuer à employer les gens? Peut-on continuer à exploiter les ressources, etc., d'une manière qui fasse que ce soit tenable? Nous pensons que oui, et donc nous pensons que cette économie-là, qui a une attention aux personnes, qui a une attention à la planète, eh bien, ça sera l'économie de demain, de toute façon. La grande question, peut-être, que vous posez, c'est comment on y arrive?
Oui, parce que donnez-nous des exemples, par exemple, des entreprises qui se sont vraiment transformées. Parce que je sais pas, il y en a un qui est très en pointe là-dessus, mais en même temps, il dit, ben non, je continuerai à vendre des bouteilles en plastique, c'est Emmanuel Faber de Danone. Là, il était chez nos confrères de RTL. Il explique, il est très présent là-dessus. J'ai envie de dire, mais il continue à vendre ses produits comme avant, quoi.
Alors, une entreprise, ça se manœuvre pas comme, comme un petit voilier, évidemment. C'est surtout celle dont vous parlez, c'est plutôt un paquebot. L'idée principale, c'est d'avoir une boîte à outils qui permette de modifier peu à peu le business model de l'entreprise et d'accueillir acculturer aussi ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs pour opérer cette transformation. Nous avons de multiples exemples dans plusieurs domaines. Ce qu'on a affirmé aux universités de l'économie de demain, c'est 12 grands principes qui disent grosso modo le pouvoir doit être mieux partagé, mieux équilibré dans l'entreprise. C'est ça qui va faire du bien aux salariés, mais aussi à leurs clients et aussi à la société. Les richesses peuvent être mieux équilibrées et bien sûr l'impact.
Oui, mais quel impact ça ? Justement, on en a parlé dans le RH avec Thibault Langsal qui avait écrit un rapport là-dessus. Mais qu'est-ce que ça ? Je veux dire, quel est l'impact du fait qu'il y ait un pouvoir partagé avec les salariés, l'intéressement ? Mais quel impact ça peut avoir concrètement sur l'urgence climatique ? Alors, vous voyez, je veux dire, c'est le lien, il n'est pas évident. Là, on vit plus dans le social à ce moment-là.
Absolument. Il y a plusieurs piliers. Et si on parle du plan du pilier social, je peux vous donner un exemple. On a une entreprise qui s'appelle Alevi, qui sont des auxiliaires de vie. Ce sont des gens qui font attention à la personne, des services à la personne. Chez eux, disons, le mantra, le slogan, c'est celui qui fait, c'est celui qui sait. Et donc, on remet quelque part plus de marge de manœuvre, plus d'autonomie aux salariés qui est à l'action, dans le geste, comme auxiliaire de vie, plutôt que d'édicter des normes.
D'accord, mais moi j'étais sur l'urgence climatique. Ça, on est moins dans l'urgence climatique. Transformation environnementale, parce que votre collectif pour demain, c'est vraiment ça. C'est un changement de société, certes, mais jusqu'où vous allez, et surtout, quand toutes les entreprises qui nous écoutent, voilà.
Toutes les entreprises ont aujourd'hui à leur disposition une boîte à outils. Moi qui ai travaillé pour la COP21 et l'accord de Paris il y a quelques années dans l'équipe de négociation, je peux vous dire qu'on a doté les entreprises notamment de bilan carbone, d'analyse de cycle de vie et de mesures qui permettent aujourd'hui de savoir si un yaourt, si une bouteille de jus de fruits, si une bouteille d'eau a un impact environnemental et lequel. La question c'est est-ce que ces outils, elles peuvent les utiliser ? Quand je sais combien mon produit émet dans l'atmosphère, pollue, entre guillemets, est-ce que je peux changer mon business model ? Et donc la première revendication que nous formulons nous, c'est de mieux publier l'impact des produits. Si on sait, on pourra agir. Est-ce que deux jus se valent, deux yaourts se valent, deux paniers de fruits se valent. Une fois qu'on sait, le manager doit se poser la question, est-ce que je peux m'approvisionner autrement, à une distance différente, ou composer mon produit de manière différente pour que l'impact climatique ou l'impact environnemental ou les rejets de pesticides ou de produits chimiques dans l'environnement soient moins forts. On a des multiples leviers. La question clé, c'est de savoir si les gens vont continuer à l'acheter et si je reste compétitif. Mmh. Et le fait que ce soit des entrepreneurs qui se soient réunis et non pas simplement des ONG comme la nôtre est très important parce que cette économie-là, c'est pas un vœu pieux, elle existe et nous en avons fait la preuve. Donc pour vous donner un exemple plus concret sur la logistique par exemple, vous avez une franchise de magasins, des magasins bio qui s'appelle Biocoop, qui a réussi à développer un business model qui privilégie le rayon des 150 km autour des magasins. Donc vous devez, quand vous êtes un magasin de ce type dans cette franchise-là, vous approvisionner d'abord dans les 150 km environnants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous réduisez votre impact logistique tout de suite, ça veut dire que vous recherchez.
Mais est-ce que c'est vrai ? Si je trouve un avocat, je ne pourrais pas en trouver un dans un rayon de 150 km.
Alors bien sûr, et nous chez Max Ablard, on connaît bien cette question puisqu'on s'occupe. De toute façon, le panier de la ménagère, entre guillemets, il sera aussi composé de produits qui viennent de loin. Mais ces produits qui viennent de loin, on peut réduire alors, leur impact environnemental par un transport plus adapté, mais surtout leur impact social. Parce que le principal enjeu, vous savez, pour ce qui est, par exemple, du cacao, pour ce qui est du sucre, pour ce qui est du café, c'est avant tout de savoir s'il est produit par des gens qui sont dans une misère noire et qui, demain, vont quitter leur terroir. La mondialisation aujourd'hui, en termes de sécurité alimentaire, elle repose sur 3 milliards de petits paysans qui sont chez eux et qui produisent dans un modèle d'agriculture familiale. La question qu'on doit se poser collectivement, c'est est-ce qu'on veut déstabiliser ces 3 milliards de petits paysans en leur achetant un prix en dessous de leur coût de production ? C'est-à-dire qu'on les empêche de rester là où ils sont, de rester dans leur métier et d'être heureux là où ils sont et de nourrir leur famille en payant en dessous des coûts de production. On les chasse en quelque sorte. Ça, on peut l'empêcher à travers les mécanismes qu'on a défendus
dans
cette université.
Oui, mais même, alors on a dit, je ne sais pas si c'est vrai, donc je vous pose la question. Par exemple, Max Ablard, il avait aussi un problème de rémunération de ces petits producteurs. En l'occurrence, on vous a accusé de ponctionner trop. Parce que tout le monde a une logique économique.
Bien sûr.
Le petit producteur,
Le principe fondamental est très pragmatique. Nous n'achetons pas de café, nous ne vendons pas de bananes. Nous allons voir des entreprises françaises, des distributeurs, des industriels, et nous leur proposons un nouveau pacte commercial. On leur dit, écoutez, pour que ce soit durable, durable, il faut que vous payiez un prix minimum de sécurité qui permette aux paysans de continuer son activité. Ça, c'est le premier pilier de Max Havelaar et du commerce équitable. Ce prix est non négociable. Tous les produits que vous voyez avec ce petit logo, eh bien, ce prix minimum a été payé. Le deuxième pilier, c'est de dire pour que l'entrepreneur ait un avenir, il faut qu'il ait une prime de développement qui lui permette d'investir, soit dans son outil de travail, soit dans les services sociaux autour de lui, pour que son territoire soit à peu près équilibré, à peu près durable. Toute entreprise qui choisit de respecter ce pacte commercial, ainsi que d'autres clauses comme le respect des droits du travail, l'interdiction des OGM par exemple, peut obtenir cette marque. Et grâce à cette marque, on rend le pouvoir au consommateur qui, lui, peut se dire « Oh là, vous parliez d'un avocat, sur cet avocat, je ne vois rien, je ne sais pas comment c'est produit, je ne sais pas à quel prix c'est produit et quelles sont les conséquences pour notre société, pour l'humanité, alors que dans un autre cas, je vais avoir un label. » Donc, un des aspects de l'économie de demain, ça va sans doute être d'avoir un renforcement très puissant des labels d'ONG comme la nôtre, mais il y en a d'autres, il y en a pour la forêt, il y en a pour les bâtiments, vous en parliez avec votre invité précédent. Nous pensons qu'une des voies d'avenir, c'est que demain, on rende le pouvoir de transformer l'économie au consommateur. Mais pour autant, le consommateur, il faut qu'il puisse y voir clair. Dans un supermarché, dans un hypermarché, vous avez 50, 80 000 références.
C'est drôle parce que la question que j'allais vous poser, Blaise Desbordes, pardon, c'était de dire, en fait, si cette transformation, elle peut s'accélérer, c'est grâce aux applications qui ont été lancées.
Absolument.
C'est elles qui sont en train de transformer la société.
Ce n'est pas le seul levier, mais c'est un levier très puissant. Il y en a qui sont très connus, qui effectivement sont devenus l'outil quotidien du consommateur. Nous, on appelle de nos voeux que certes, elles détectent le cholestérol, mais qu'elles détecte aussi la misère humaine. On ne sait pas si derrière votre tailleur, derrière ma veste, fibres de coton ont été cultivées dans des conditions absolument d'exploitation indécentes. Souvenez-vous du Rena Plaza.
Oui.
2013, c'est pas très loin. Que s'est-il passé depuis le Rena Plaza? Pas grand-chose. On continue à acheter de la fast fashion, des t-shirts à 3 euros, qui derrière cachent un océan de misère et un désastre environnemental. Donc oui, les applis, la digitalisation est un levier puissant pour aider l'économie de demain. Je voudrais citer deux autres revendications que nous avons portées dans ce collectif, qui sont très importantes. L'État ne peut pas tout, mais l'État peut beaucoup. Le président Macron, devant les entrepreneurs à Davos en janvier 2018, a dit une phrase très forte. Il a dit « La mondialisation qu'on aspire de nos voeux, elle ne se fera pas sans vous. Montez à bord, faites de la responsabilité sociale des entreprises, faites de l'investissement responsable. » La finance est un secteur extrêmement sensible là-dessus. Et il a donc interpellé les entrepreneurs. Ce que nous disons, c'est que l'État, même s'il ne peut pas tout, peut beaucoup. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut moduler les aides d'État, qui sont importantes, qui se comptent en dizaines de milliards, la PAC bien sûr, mais d'autres dans le domaine industriel. Et il peut aussi moduler la fiscalité. Pourquoi une entreprise qui fait, comme la Camif par exemple, 100% de fabrication de ses meubles en France? Ça veut dire des emplois ici, ça veut dire une qualité qui est suivie. Pourquoi est-ce qu'elle paierait le même impôt sur les sociétés qu'une entreprise qui va totalement délocaliser dans des conditions éventuellement difficiles de production et se présenter dans le magasin dans les mêmes avantages compétitifs? Nous pensons que l'impôt sur les sociétés, le fameux IS, pourrait être modulé.
Mais non, mais c'est pour ça qu'il y avait la question de la TVA. C'est pour ça qu'il y avait la question de la TVA.
Quid de la TVA? On a connu par le passé des difficiles mutations de la TVA. Aujourd'hui, nous demandons à ce que la TVA soit modulée parce que les entreprises qui font du bien à la sociétés doivent moins payer d'impôts pour une raison très simple, c'est qu'elles font déjà une partie du job, passez-moi l'expression, puisqu'elles veillent à l'emploi, elles veillent à la préservation de l'environnement, elles veillent à mieux inclure et garder leurs salariés. Regardez une entreprise comme Simplon. Simplon aide les gens qui sont éloignés de l'emploi à se former au numérique. Plus de 5000 personnes ont été formées. Et bien une entreprise comme ça, elle est capable de lever 12 millions de capital qu'on appellerait du capital patient, c'est-à-dire des actionnaires qui veulent investir aussi pour la société, sans difficulté. Donc il y a un autre modèle entrepreneurial possible. L'État l'encadre un peu avec la loi PAC, avec diverses lois, mais ce n'est pas suffisant. Il faut une modulation fiscale, il faut que les aides publiques soient également modulées et il faut une politique, une stratégie publique des labels.
Et là vous avez... Oui. Sa stratégie politique des labels, je pense que c'est un point aussi intéressant. Là, vous avez testé notamment sur la variabilité de l'IS en fonction justement de ce qu'on produit et où on produit.
Je pense qu'à Bercy, il y a les bons cerveaux pour nous faire les simulations qui vont bien pour que les finances publiques ne s'en trouvent pas amoindries. Nous préconisons également le principe du bonus-malus. Donc pourquoi pas faire un test sur l'IS avec le principe du bonus-malus. À d'autres époques, il a été plus utilisé notamment dans l'automobile, pas toujours réussi, mais il serait, je crois, d'assez équitable que ceux qui font plus de bien à la société, qui génèrent moins de pollution et donc moins de réparation, parce que derrière, c'est des dépenses publiques. Quand vous polluez, qui va dépolluer ? C'est bien souvent les finances publiques. Quand vous excluez les gens ou que vous ne faites pas attention à qu'ils aient de la formation permanente, et bien derrière, c'est les pouvoirs publics qui vont devoir, quelque part, rattraper les choses.
Blaise Desbordes, donc, de Massavlar. Maintenant, moi, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis longtemps. On dit, aujourd'hui, il faut consommer local.
Oui.
Sinon, il faut oublier, il ne faut plus prendre de langoustines ou de crevettes qui sont pêchées en Islande, qui vont ensuite en Thaïlande, etc. Mais ça fait du boulot sur place. Si bien vous sûr. Commencez à plus acheter des roses qui viennent du Chili ou du Kenya, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens ? Idem pour beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas un discours peut-être à nuancer, on va dire.
Il y a deux choses. Il y a un objectif ou un horizon et puis il y a un chemin. L'horizon, on sait effectivement qu'il va falloir réduire les distances parcourues. Il n'est plus possible qu'un paquet de cookies traverse trois fois l'Europe dans sa composition, etc. etc. Ça, c'est l'horizon. C'est à 2050, le GIEC, d'autres scientifiques nous disent, il va falloir réduire de X, 80, 70, 100% telle ou telle empreinte environnementale. Tout en ayant l'horizon dans la vue, les uns et les autres, nous devons trouver un chemin de transformation. Et c'est pour
oui,
ça
mais
que...
pas ne penser qu'à nous. C'est-à-dire, il faut
aux pays africains. J'ai un bon exemple. Le café ne poussera probablement jamais en France. Parce qu'il c'est a besoin ça, d'être oui. dans la oui. ceinture intertropicale avec certaines variables de température en moyenne montagne. Il y aura probablement toujours du café. Ceux qui le veulent peuvent réduire ou supprimer leur consommation de café, mais d'autres peuvent se dire, de toute façon, j'en achète, autant que là-bas, ça ne détruise pas la vie des autres et l'environnement ailleurs. C'est incroyable. Nous, on est très heureux d'avoir 3%, 3,5% de part du marché. Ça veut dire qu'il y a 10 000 tonnes de café vert en France qui sont dans des conditions acceptables et équitables. Mais ce n'est pas assez. Ça veut dire que 97%, probablement votre café de ce matin, il fait partie des 97% où il n'y a aucun filet de protection. Donc, oui, au là-bas, nous faisons du développement local lointain. C'est-à-dire qu'on veille à ce que là-bas aussi la vie soit possible, un futur soit possible pour le café, pour l'avocat, pour le sucre de canne qui poussera pas certes en France et pour le cacao bien sûr qui lui a ce paradoxe d'être aussi un grand plaisir dans la vie pour beaucoup d'entre nous.
Est-ce que vous diriez que votre entreprise elle est vertueuse ?
Je dirais qu'elle tend à être vertueuse.
Oui, c'est ça, la philosophie de son fondateur, bien sûr.
Plutôt que la vertu, je parle de responsabilité. Prendre la responsabilité, ça veut dire je fais un constat, je regarde ce qui est possible et tout ce qui est possible, je le fais. Aujourd'hui, vous étiez une grande entreprise tout à l'heure. Si elle, demain, elle bascule ses approvisionnements de sucre ou de mangue ou d'ananas en équitable, elle peut changer la donne au niveau mondial. Ça, c'est prendre ses responsabilités. Nous appelons, à travers cette université, les entrepreneurs en leur disant, la boîte à outils est à votre disposition, vous pouvez faire évoluer votre statut en entreprise à mission. Ça, c'est la loi Pacte qui vient de l'instaurer.
Oui.
Mais elle ne nous dit pas trop comment. Or, la boîte à outils, elle existe depuis 30 ans dans l'économie solidaire, dans l'économie sociale, à travers la finance éthique. Vous savez, on peut changer le monde en trois choses.
Donnez-nous un outil pour la finance éthique.
L'ITA.co. Vous allez sur ce site et là, vous pouvez savoir comment... L'ITA.co. Vous pouvez aller sur Finansol, qui est un site qui donne un label aux produits financiers, soit comme épargnant dans votre entreprise, épargne salariale, soit comme épargnant privé, soit comme gestionnaire des finances d'une entreprise, vous pouvez orienter. Nous, chez Massavlar, quand on a de la trésorerie, on la place, ou on essaye autant que possible de la placer dans des produits éthiques, c'est-à-dire de la finance qui fait du bien à l'autre bout de la chaîne.
Massavlar, redonnez-moi les chiffres au niveau français et au niveau...
4000 produits.
Ça, c'est au niveau monde. Hein.
4000 produits. Non, au niveau français. Au niveau monde, c'est 35 000.
35 000.
35 000. En France, c'est 10% des bananes françaises, c'est-à-dire qu'à peu près 60 000 tonnes. C'est très important et la courbe, surtout, est à deux chiffres. On a progressé de 40% l'année dernière et sans doute de 40% cette année. On est en train d'expérimenter, après 20 ans, je dirais, de pionnier, 20 ans de stratégie de niche, une évolution où Massavlar et, je dirais, l'équité sociale peut devenir aussi une norme. Vous avez d'un côté le bio qui va essayer de protéger la planète, et de l'autre, il faut protéger les gens. Et c'est complémentaire. Le bio ne peut pas encore protéger les conditions sociales de travail, la juste rémunération. Nous le faisons. Et donc, de plus en plus, les produits qui ont les deux labels sont des produits leaders qui se développent. Donc, je vous le disais, 4000 produits, à peu près 200 entreprises qui sont partenaires, des très grandes, des très belles PME françaises comme Malango, comme Méo, comme Lobodis, qui sont des torréfacteurs en France ou des chocolatiers en France, qui font de l'emploi ici. Mais comme ils achètent une matière première loin, ils veulent que cette matière première obéissent au respect d'un.
Est-ce que vous diriez quand même, après cette université d'été que vous avez fait, qu'on est en train de. Les mentalités ont, ont bougé là. Il y a une sorte d'accélération du mouvement depuis quelques mois.
Pas forcément de tout le monde. Je dirais qu'un certain nombre de décideurs économiques et de décideurs publics savent qu'il faut changer. C'est pour ça qu'on dit que ça sera comme ça demain. On le sait, il y aura moins de CO2 dans l'atmosphère, forcément. On ne pourra plus supporter les pesticides dans la terre. Simplement, ce qui manque, c'est la boîte à outils. Et c'est ça notre proposition. C'est une proposition pragmatique. On l'a fait un peu comme un clin d'œil aussi, la même semaine, vous le disiez, de l'économie du MEDEF. Il y a des entreprises qui ont un impact positif. Demain, l'État doit nous aider à le mesurer. Il doit nous aider à rendre le pouvoir aux consommateurs. Pourquoi on n'y arrive pas, quelque part, madame? On n'y arrive pas parce que les entreprises...
Parce qu'il n'y a pas de prise de conscience du consommateur.
Je ne crois pas. Vous avez raison en disant que la prise de conscience est là. Les gens voient des reportages. Ouais. Simplement, au moment du passage à l'acte, dans les rayons, ils n'ont pas les outils pour s'orienter. Ils n'ont pas les incitations.
Oui, mais excusez-moi, vous avez un t-shirt à 2-3 euros, vous l'achetez parce que ça coûte peu cher. Oui, certes, il y en a à 15 euros qui sont beaucoup plus lavabilisés Max Avelar, mais au moins, je peux avoir un t-shirt. Quoi. Alors, idem pour la viande, idem pour le poulet. Tout vient de là.
Le défi des entreprises à impact positif, c'est d'être accessible financièrement. Donc, de proposer des produits qui durent mieux, qui ont peut-être un petit surcoût pour mieux payer les travailleurs ou faire attention à l'environnement, mais qui vont durer plus longtemps et qui vont mieux rendre un service. On avait le Slip français, qui est une très belle PME, qui était invitée à notre université. Il a dit, vous savez, on a des kilos et des kilos de vêtements supplémentaires chaque année, ça regorge dans nos placards, et à la fin, on utilise 5, 6 t-shirts, quelques vêtements. On a tous cette expérience. Donc, mieux acheter, c'est pouvoir acheter un peu plus cher avec des emplois français et la protection à l'autre bout de la planète, des gens qui font le coton, des gens qui vont tisser, filer, teindre vos vêtements. Ça, c'est un premier axe. Mais l'État, encore une fois, doit nous aider en incitant. Nous prenons au mot les tenants de l'État moderne. Un État moderne, c'est un État qui fait avec le réel, qui est stratège. La puissance des entreprises aujourd'hui permet de faire cette transformation. Mais il faut que les impôts, la TVA, les réglementations soient modulées pour donner une prime à ceux qui font du bien à la société et à la planète, et puis peut-être donner un petit malus à ceux qui font moins de bien, afin que, en transition, ils puissent faire évoluer leur gamme de produits. C'est vraiment possible, on l'a démontré, c'est une question de volonté politique, et encore une fois, quoi de tel qu'un panier de labels qui aide les grands acheteurs à faire leur choix entre une maison...
Est-ce que vous prenez un modèle de décroissance? Est-ce que c'est la fin de la société de consommation telle qu'on connaît?
Non, certainement
pas. Et nous en partie. Enfin,
non, c'est le début de la société de consommation, c'est-à-dire où le consommateur devient un acteur non plus passif, mais un acteur actif. Et donc, comme l'espace publicitaire est très occupé par des produits parfois peu durables, nous essayons d'exister et de faire connaître, notamment grâce à des labels, une économie beaucoup plus durable. Si demain, vous savez, vous avez le choix dans une mutuelle d'assurance, par exemple, vous voulez vous assurer sur le plan de la santé, vous savez qu'il y a des organismes comme la Maïf, comme le Groupe Vive, ils n'ont tout simplement pas de capital. Ils n'ont pas besoin servir à la fin de l'année 40% du bénéfice à des actionnaires, peut-être parfois lointains, peut-être dans des paradis fiscaux ou autres.
Donc, vous prenez le régime des mutuelles, plus que une société par action.
Pas forcément. Si des assurances à capitaux veulent se lancer dans ce domaine, ils peuvent le faire, mais on a publié quand même 12 principes assez contraignants. Dans les groupes dont je vous ai parlé de mutuelles, non seulement on ne donne pas de dividendes aux actionnaires, mais il y a des plafonds de rémunération. Donc il faut aussi accepter un jeu économique où entreprendre, ce n'est pas simplement... Aspirer un maximum de richesse partout où c'est possible pour la redistribuer à quelques-uns. La vraie entreprise, c'est pas ça. D'ailleurs, vous demandez aux chefs d'entreprise qu'est-ce qui les meut quand ils créent leur entreprise, c'est pas l'argent. C'est d'être leur propre souverain, c'est de développer de l'activité, c'est de créer. Eh bien, surfons là-dessus avec une boîte à outils de l'économie de demain.
Je vais peut-être vous choquer, mais juste une réflexion comme ça, un petit peu café du commerce, mais à mon avis, est quand même intéressante par rapport à... Vous prenez le modèle chinois. Au début, c'était... Et encore maintenant, hein, du reste, c'est des pauvres Chinois qui étaient là, au fin fond de la Mongolie intérieure, en train de faire de produire nos iPhones. Aujourd'hui, je veux dire, 20 ans après, 30 ans après, vous avez une classe moyenne qui a émergé. Oui. Bon, je parle, évidemment, il y a une classe de super riches, mais on voit bien que le niveau de vie, quand même, en Chine, en tous les cas, pas à 100%, mais enfin, pour une grande partie des Chinois, a augmenté. Donc, finalement, ces petits métiers épouvantables, au départ horribles, conduisent à une certaine forme de richesse et d'amélioration du niveau de vie.
Vous avez raison, mais on n'a pas le temps. Ce mode, cet itinéraire de développement et de croissance, on n'a pas le temps de lui laisser sortir de la pauvreté les gens dont vous parlez. Pourquoi ? Parce que l'empreinte environnementale de tout cela, les jouets chinois que nous avons sous le sapin à Noël, les objets électroniques est beaucoup trop délétère. On est en train de détruire la planète, les ressources rares, ça menuise, et donc même en traçant la courbe que vous dites, on n'y arrivera pas. Ces nouveaux classes moyennes ne seront pas assez nombreuses à temps. Donc l'idée,
c'est trop tard pour les Indiens.
Non, En revanche, ce qui est positif et optimiste, c'est que les Chinois dont vous parlez, ils ont eu une demande, ils ont eu un client. Et c'est par là que ça pourra changer. Si demain, quand vous achetez un jouet, quand vous achetez un objet électronique, vous faites attention, je vais citer, le Fairphone 3 vient de sortir. Ça veut dire que dans le modèle, dans le monde des smartphones qui nous inondent les uns et les autres, vous pouvez choisir un smartphone qui s'appelle le Fairphone, donc le phone équitable, qui est beaucoup plus démontable, beaucoup plus remplaçable, donc qui durera plus longtemps, et dont par exemple l'or, parce que vous savez qu'il y a de l'or dans les smartphones, est certifié équitable dans une petite mine péruvienne que nous sommes allés contrôler pour vérifier que les mineurs ont des conditions à peu près dignes. Demain, nous voulons que les JO de 2024 soient la locomotive de l'économie de demain. Tous les marchés publics des JO devront être équitables et durables.
Et la consommation, on va
la consommation, mais voilà, y compris des pouvoirs publics avec les Jeux Olympiques.
Voilà, comme ça, c'est envoyé. Rendez-vous est pris, le cœur en sein. Merci beaucoup, Place des Bordes. On sent vraiment la conviction. Donc, porte-parole du collectif pour demain et puis le patron de Max Havelaar pour la France. Voilà, c'est la fin de l'heure H. On se retrouve demain. Demain matin, on parlera un peu du Brexit avec le ministre délégué auprès de Jean-Yves Le Drian, Jean-Baptiste Lemoyne. Et puis, on se retrouvera bien sûr dans l'heure H, 12h-13h. Bonne journée.